Bonjour à toutes et à tous, effectivement c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche, un petit défi aussi parce que j'ai pas beaucoup dormi, donc parce que, comme toi Marc, d'accord, bon bah alors on est deux. Effectivement on va prendre cette deuxième partie de la justice, on a déjà pu voir ce thème là il y a deux semaines, et puis je vous invite à juste un peu vous replonger ou nous replonger dans cette thématique-là par deux choses qui me sont restées pour essayer de percevoir ce que dit la justice dans la Bible. C'est d'abord la réalité d'un monde déchu. On est dans un monde injuste. On n'est pas dans un monde juste. On en voit tous les jours des injustices. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré la photo d'un enfant qui n'était pas content. Et dès le plus jeune âge, on se rend compte qu'il y a une sensibilité à l'injustice. Et puis, les enfants l'expriment de manière très, très forte. Et c'est assez intéressant de le voir. Enfin, ça dépend où on se place, mais ça peut être intéressant. Et pourtant, c'est dans ce monde-là que Dieu décide de se révéler. On ne comprend pas vraiment, il y a une part de mystère. Pourquoi il choisit de se révéler dans ce monde-là? Pourquoi il choisit d'envoyer son Fils dans ce monde-là? Toujours est-il que c'est ce qu'il fait et c'est ce que nous croyons. Et c'est précisément cette personne de Jésus-Christ qui va être centrale dans cette prédication, en lien clair avec la justice. Et vous allez voir que, autant la semaine passée, ou il y a deux semaines, on a pu parler des prophéties de l'Ancien Testament, autant on va voir à quel point Jésus les met en œuvre dans sa vie, dans son œuvre, dans ce qu'il a fait sur cette terre. Jésus est vivant, et puis j'aime bien ce dessin parce qu'il est vivant de plein de manières différentes. Il est vivant par la croix, il est vivant par sa résurrection, et il est vivant aussi par toute son action qu'il a eue sur terre. C'est un peu ce que illustre tous ces dessins. Et puis c'est quelque chose qui, chaque fois, vous allez le voir, si on y est attentif, on peut regarder toutes ces actions à travers les yeux de la justice. C'est un peu ce que je nous encourage à faire ce matin. Et puis pour nous, en tant que disciples de Christ, précisément, c'est une voie sur laquelle nous pouvons marcher à notre tour. Alors voilà ce qu'il nous a dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Donc il, c'est Jésus, il vint à Nazareth, c'est là qu'il habite, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Et Jésus se lève pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. » Pour faire quoi ? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, qui conclut tout cela pour proclamer une année d'accueil ou de grâce de la part du Seigneur. Puis Jésus roule le livre, il le rend au servant et il s'assoit. Les yeux de tous sont fixés sur lui. Alors il se met à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit, « Certainement, vous me citerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. » Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » Il finit comme ça parce que quelques instants plus tard, tous ceux qui étaient réunis avec lui dans la synagogue se sont mis à le poursuivre et il a dû s'enfuir de son lieu d'origine parce que ses paroles les ont dérangés. On va essayer de voir pourquoi. Et puis, un autre endroit dans l'évangile, dans un sermon qui est très célèbre et qui, moi, m'inspire beaucoup, le sermon dit sur la montagne, il commence par décrire un peu une manière d'être chrétien où chaque fois c'est une manière d'être chrétien et de chercher le bonheur chrétien. Et voilà ce qu'il nous dit. « Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi ? De justice, car ils seront rassasiés. » Et un tout petit peu plus loin, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » C'est dans ces béatitudes, c'est comme ça qu'on appelle ces phrases, c'est la seule fois qu'il y a deux choses qui reviennent, c'est la justice. souligner l'importance de cette justice. Et un tout petit peu plus loin, il reparle encore une fois de cette justice avant de faire un long développement sur ce qu'elle peut être concrètement. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. On le voit, la justice selon Jésus, c'est un peu tout ça. La première chose, je dirais, et ça fait écho à ces paroles de Luc, c'est un signe évident de l'action du Saint-Esprit, un signe évident de l'onction. Il nous arrive parfois de nous creuser un peu la tête, comment est-ce qu'on remarque que le Saint-Esprit est en action, comment est-ce qu'on pourrait sentir sa puissance dans nos vies, dans notre vie communautaire. Eh bien, l'exemple de Jésus, il est assez frappant, c'est-à-dire que l'onction qui descend, elle est liée clairement à l'exercice de la justice. Ce n'est pas deux choses qui sont dissociées, ce n'est pas deux choses qui sont séparées. L'onction de Dieu, l'Esprit du Seigneur, nous pousse à vivre une vie selon la justice. Et vivre selon la justice, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres tous ceux qui sont opprimés, et proclamer un accueil de la part du Seigneur. C'est aussi extraordinaire toujours de voir à quel point la Bible elle est cohérente, et puis comment Jésus se réapproprie tout ce message de justice annoncé par les prophètes, et comment il le met, lui, dans sa bouche, et il l'incarne, c'est-à-dire qu'il le rend vivant par sa personne même, par son être même, il le rend vivant, et il nous entraîne à sa suite avec lui. Il termine avec cette notion d'année d'accueil de la part du Seigneur. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est cette année d'accueil, mais c'est un jubilé qui arrivait tous les 49 ans, c'est presque un peu comme les noces d'or que certains ont déjà pu fêter dans l'Assemblée, félicitations, qui intervient tous les 49 ans. C'est une loi voulue par Dieu dans le Lévitique, en Lévitique 25, qui ordonne au peuple d'Israël, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple, c'est-à-dire à la communauté, de remettre à zéro absolument tous les compteurs. Donc, si vous aviez des dettes, il n'y a plus de dettes. Si vous aviez des devoirs avec quelqu'un, il n'y a plus de devoirs. On remet à zéro tous les compteurs. C'est impressionnant, hein ? C'est ce que nous indique clairement le Lévitique. Il n'y a pas que des lois qu'on ne comprend pas. Il y a peut-être des lois qu'on ne veut pas comprendre, par contre. Et c'est ce que reprend Jésus dans sa première prédication lorsqu'il parle aux siens. À une époque comme la nôtre où les inégalités s'accumulent au cours des années, ça peut nous faire réfléchir. Et puis ça souligne surtout l'idée forte que tous les membres du peuple ont la même valeur et que ce n'est pas normal dans la justice du royaume que certains se retrouvent opprimés alors que d'autres sont sur un piédestal. Pour Jésus, ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation juste. C'est pour ça qu'il se propose d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on peut lire ces versets à la lumière de la justice, de renvoyer libres les opprimés, c'est pas rien. C'est de se dire, il y a une force là qui est extrêmement concrète, qui est extrêmement présente. Et puis peut-être que l'auditeur juif de Nazareth du 1er siècle, il avait tout à fait compris ce que Jésus voulait dire. Quand il a dit qu'il proclamait une année d'accueil de la part du Seigneur, ils ont tout à fait allusion dans leur tête à ce que ça signifiait concrètement pour eux. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait renvoyer, puis qu'il a même été pourchassé de l'endroit où il est né. C'est fort hein, comme réaction, parce que ça nous touche profondément, ça nous touche, je dirais, dans nos tripes. Il y a ce commencement d'une nouvelle ère qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il propose une interprétation radicale de la justice. Alors c'est ce qu'il fait dans ce deuxième texte que nous avons lu, du Sermon sur la montagne, où il enseigne à ses disciples et à la foule, comment cette justice peut se vivre. Et là, il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse faire descendre dans nos cœurs. C'est que d'abord, cette notion de justice, il en donne une interprétation radicale. Je vous la fais courte, mais tout le développement ensuite dans le chapitre 5 de Matthieu va aboutir sur ces versets clés de l'amour des ennemis. Donc pour lui, la justice, c'est non seulement de mettre en œuvre la loi et les prophètes, mais c'est d'aller encore plus loin, jusqu'à l'amour des ennemis. On va un peu voir ce que ça peut signifier. Et ce faisant, il prend sa tradition, donc il puise quelque part son socle, l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, et il lui donne une interprétation encore plus forte, encore plus engageante. Et lui, il va accomplir tout ce que la loi et les prophètes ont dit. Il donne une interprétation radicale parce qu'il nous propose non seulement de suivre la justice, mais encore de la surpasser, d'aller au-delà de ce que la loi a pu raconter. Donc notre but en tant que chrétien, ce n'est pas d'être des applicateurs encore plus zélés de la loi que les pharisiens, parce qu'on n'y arriverait pas, ils étaient déjà très très forts. Ce n'est pas d'accumuler encore plus de points, puis de regarder les uns les autres comment on y est arrivé. C'est de se laisser inspirer par cet exemple de Jésus qui nous pousse vers cet amour des ennemis. C'est une culmination, et c'est une culmination qui doit rester notre horizon, qui doit rester notre horizon en tant que disciples du Christ. Et puis c'est vrai que, ben vous le savez maintenant, on a cette exposition-là qui va avoir lieu de Martin Luther King. C'est clair et net que c'est quand même quelqu'un qui a essayé d'aller dans cette direction-là, qui a payé de sa vie pour y aller dans cette direction-là, de la justice, en essayant de mettre en pratique cette réalité de l'amour de l'ennemi. Et puis, je vous cite juste quelque chose de son autobiographie, où il parle de ses tout premiers instants du combat, juste pour permettre à ce que les Noirs et les Blancs puissent s'asseoir dans le même bus. Donc, quelque chose de très basique. Hein. On était encore dans une période où il n'était pas possible de le faire. Et puis, ça a été leur première action concrète, faire en sorte que, quelle que soit notre couleur de peau, on puisse s'asseoir au même endroit sans être discriminé. De nouveau, on retrouve des échos de la prophétie de Jésus, là, quand il dit « renvoyez libres les opprimés ». Là, il y avait une situation d'oppression qui a dû être adressée. Et voilà ce qu'il dit. Dès le début, notre philosophie de base a été celle connue plus tard sous les noms de résistance non-violente, non-coopération ou résistance passive. Mais, durant les premiers jours du boycott, aucune de ces expressions n'était employée. La phrase la plus entendue était qu'il pratiquait l'amour chrétien. C'est le sermon sur la montagne que nous venons de lire, plutôt qu'un principe de non-violence, qui a inspiré initialement les Noirs de Montgomery à l'action sociale et concrète. C'est Jésus de Nazareth qui a motivé les Noirs à protester en utilisant les armes créatives de l'amour. En d'autres mots, Jésus a fourni l'esprit et la motivation de tout ce projet. Quand je vous disais que la justice était une marque de l'onction et du Saint-Esprit, on en a une illustration majeure avec cet exemple-là. Cet même esprit qui a animé Jésus dans une synagogue à Nazareth, un petit bled paumé de Galilée, ce même esprit, il inspire des Noirs aux États-Unis dans les années 1960-1970. C'est extraordinaire, hein, de voir cette vigueur de l'Esprit-Saint pour nous mettre en route afin que la justice puisse s'exprimer pleinement et que l'amour soit l'arme avec laquelle nous menons ce combat. Moi, je trouve ça assez frappant et assez inspirant pour notre vie, même ici, de disciples de Christ à Nyon. Je vous cite encore quelque chose d'autre qui est d'un orateur qu'on aura bientôt l'occasion d'écouter, qui s'appelle Louis Schweitzer, qui a des références dans le monde francophone au niveau justement de la manière d'être, c'est-à-dire de l'éthique, de la manière de faire en tant que chrétien. Et puis voilà ce qu'il nous dit. « La recherche de la justice est un devoir, de même que la dénonciation des injustices que d'autres peuvent subir devant nous. Mais ce refus de la violence, là il pense aussi à Martin Luther King, est le signe de ce qui est cherché en profondeur. Ce n'est pas la victoire des uns sur les autres, des Noirs contre les Blancs, en l'occurrence pour Martin Luther King, ou du bon contre les méchants. Mais le but est la recherche d'une communauté réconciliée, dans laquelle les uns et les autres pourront vivre ensemble. Le but est le changement de l'adversaire, sa conversion, et non son écrasement ou même sa défaite. » Ça inspire, hein? Ça donne une direction, ça donne une manière d'être. C'est comme ça que j'ai intitulé cette prédication, la justice comme manière d'être, où on ne cherche pas à écraser l'autre en se disant qu'il a commis une injustice, et puis je vais lui montrer comment ça se passe. On cherche plutôt, par la puissance du Saint-Esprit, à ce que l'autre et moi, je sois transformé par cette puissance-là, en vue de la justice. Et c'est ce que Jésus accomplit lorsqu'il vient sur terre. Il agit dans cette direction-là, Il pose des actes dans cette direction-là. Vous pouvez relire tous les évangiles et vous verrez à quel point la justice, si vous le regardez avec ses lunettes, elle revient constamment. Constamment, constamment, constamment. Il va vers ceux qui ont besoin de justice et il les relève. Il les prend par la main, il les relève. Et c'est ce qu'il nous invite à faire dans notre accomplissement, limité certes, mais qui va dans une direction et qui regarde dans une direction. Et puis c'est vrai que, alors là c'est un petit coup de pub pour les bases de l'éthique chrétienne, on aura une magnifique conférence ce jeudi 4 octobre, on pourra approfondir ces éléments-là avec Louis Schweitzer, on a quand même de la chance ici d'avoir des orateurs de grande qualité qui viennent nous visiter. Et puis, je vous dis qu'on est déjà en route, parce qu'on a plusieurs exemples d'actions toutes concrètes qui montrent que nous, en tant que chrétiens, on prend déjà au sérieux ce sujet-là. Et puis mon message ce matin, c'est moins pour nous tirer les bretelles que pour nous encourager, comme l'a dit Marilyn, et nous fortifier sur ce chemin-là, parce qu'il n'est pas super évident, c'est un combat. Et puis là, on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure Sandrine Bussy, qui revient d'une expérience forte sur le Mercy Chips. Ça, c'est une illustration de ce qui peut se vivre, où je crois que tu as pu vivre dans ton quotidien, tu vas nous le dire, ces éléments de personnes qui sont relevées par la présence de chrétiens qui s'engagent bénévolement sur ce bateau. On a un autre exemple qui fête bientôt ses 25 ans, c'est l'escale à Saint-Pré, puis il y a une antenne à Aigle aussi, avec Reto Lampert, qui est directeur, Raymond Graff, je ne sais pas s'il est là, qui est le président de l'association, qui cherche aussi, par conviction chrétienne, à faire que le monde soit un peu plus juste avant qu'après. Après qu'avant, c'est mieux. Qui cherche à aller dans cette direction-là. Et puis, aussi, je me permets de le dire, aussi nous, en tant qu'Église, la fraternelle, on a un petit outil qui est très discret, puis qui doit rester discret, mais c'est-à-dire qu'en communauté, on a décidé, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, je pense, je n'ai pas l'historique exact, mais de se doter de ce qu'on appelle d'un fonds social. C'est-à-dire qu'il y a une certaine somme d'argent de nos budgets qui est mise de côté pour des personnes qui sont dans des crises financières, existentielles, relationnelles, parce qu'il y a souvent tout qui va en même temps. Et puis que là, nous, en tant que croyants, on peut mettre à disposition une partie de ce qu'on a récolté tout à l'heure. Donc c'est un fonds qui existe, je ne sais pas si vous en aviez la connaissance, mais que moi, pour d'autres j'espère, non, moi, j'utilise régulièrement et il y a des demandes. C'est peut-être quelque chose qu'on a de la peine à concevoir en Suisse, mais il y a des demandes, j'en ai reçu plusieurs juste ces 5 derniers mois. Donc cette action-là, en vue de la justice, nous sommes déjà en marche, et nous sommes déjà en marche de manière communautaire. Ce n'est pas chacun dans son coin qui essaye de ramer tout seul. On est dans une perspective commune, et c'est que parce qu'on est dans une perspective commune qu'on peut aller dans cette direction-là. Alors c'est ce que je vous laisse pour, comme conclusion, ces deux versets, que nous puissions être encouragés à les faire descendre en nous, les reméditer quand on retourne à la maison, de se dire que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est un combat qu'on sait qu'on doit mener. Et puis je pense qu'on a besoin de la force des uns des autres pour pouvoir le mener. Alors moi je fais écho avec ce beau verset que tu nous as donné ce matin, Marilyn. Ainsi donc, dans cet exercice et dans cette perspective de la justice, je nous encourage que nous puissions nous encourager mutuellement et contribuer à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Amen.